Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Le titre de ma chronique économique Finance Vérité d'aujourd'hui, la dictature de la fausse monnaie. Dans l'actualité économique générale, de sources FNSEA et autres, voici ce que je lis et comprends pour vous et comme vous. Le 17 octobre, les agriculteurs participent à la journée mondiale contre la misère, la pauvreté et le chômage. 52 000 paysans, hier, des milliers de tracteurs, d'animaux, sont lancés contre les grilles et sur les routes de l'État, et crient leur immense désarroi. La crise qui touche les exploitations agricoles est sans précédent. Hausse des charges, vertigineuse, chute des prix, vertigineuse, payés aux producteurs, distorsion, vertigineuse, de concurrence, dérégulation, épouvantable, des marchés, ont eu raison du revenu de tous les producteurs français. C'est donc une année noire pour tous. La liste des productions agricoles qui se portent bien est désormais bien plus courte que celle des productions en difficulté. Lait, fruits et légumes, viticulture, viande bovine, porcine, lapin, ovin, céréales, etc. Bien peu de filières échappent à la désertification du monde agricole depuis une trentaine d'années. Je note pour ma part que l'État XXL, qui écrase sous son poids démesuré tous les producteurs véritables, ne justifie plus son existence par le service qu'il devrait rendre à la France et aux Français, mais par sa lâcheté face aux décisions à prendre. L'État ne protège plus et même trahit. Les cris de plus en plus désespérés de nos vrais producteurs, par exemple du monde agricole, mais pas seulement, et de loin, de fruits et légumes, de viande, de céréales, de lait, etc. Donc ceux qui produisent de quoi donner à manger tous les jours, à 100 millions de résidents en France en moyenne, dont 62 millions de Français, agonisent pour beaucoup sous le poids des dettes, entraînant pauvreté et même misère. Leur mort est certaine, elle est inadmissible dans un pays, sur un territoire comme celui de la France, si riche qu'il fut tant de fois pillé au long des millénaires, capable de produire plus de pommes, de viande, de lait, de fromage, etc. que n'importe quel autre pays. La France est mise en coupe réglée depuis 1976 par tous les moyens et dans tous les domaines. J'accuse nos gouvernants de haute trahison, eux qui génèrent sans cesse un déficit exorbitant et sans cesse croissant, extérieur comme intérieur, en instaurant la préférence étrangère des produits et des hommes. J'ose exiger d'eux qu'ils recommencent à remplir leur fonction de protection de notre pays et de nos producteurs d'abord, ou alors qu'ils s'en aillent ou soient fusillés. Le gouvernement doit impérativement protéger d'abord les vrais producteurs, ceux que l'on appelle de ce beau qualificatif de paysans. Ceux-ci réclament la possibilité de vivre décemment de leur dur labeur. Satisfaction entière doit leur être donnée. Le gouvernement doit instaurer des prix planchers imposant des surtaxes à l'importation des produits étrangers à la France et ses dom-toms, d'où qu'ils viennent. La préférence doit impérativement être imposée aux produits français en France. Il n'est pas normal qu'alors que les raisins et les pommes arrivent sur les marchés, les pommes françaises de grande qualité doivent être jetées pour laisser les consommateurs acheter des pommes étrangères, sous le prétexte qu'elles sont moins chères, creusant ainsi chaque jour davantage notre déficit et donc notre endettement extérieur. Nous sommes victimes d'un dumping monétaire et social étranger sur nos marchés avec la complicité de l'oligarchie commerçante. Il faut arrêter la machine à détruire, à broyer, à tuer. Il faut protéger nos productions, quoi qu'il en coûte, et fût-ce au prix d'une sortie de l'UE, car elle nous impose la désertification de nos productions et la disparition de nos producteurs. Il ne sert de rien d'aller manifester à Bruxelles auprès d'irresponsables, dogmatiques et corrompus. Il faut exiger de nos gouvernants qu'ils fassent leur travail au service du peuple de France, sauf à être fusillés prochainement pour haute trahison. Voilà ma position, et je suis prêt à subir, comme Victor Hugo, tous les bannissements, toutes les marginalisations et autres fausses accusations habituelles dont le régime condamne d'habitude ses opposants légitimes et fondés. Vive la France, vive nos producteurs. J'aurais honte aujourd'hui de donner un conseil de gestion patrimoniale ce jour. J'ai presque envie de dire qu'il vaut mieux dépenser plus en produits français et sauver notre économie plutôt que d'épargner la différence en achetant étranger, ce qui ne peut que conduire très vite à la faillite. La dite épargne, forcément dévaluée à court terme par tous ces errements dommageables. Tout est insensé de nos jours, toutes les valeurs sont inversées dans ce monde satanique. Quant aux retraités, ils mangent leur épargne à n'importe quel prix puisque les retraites des vieux deviennent, comme dans la chanson, plus maigres que la taille d'une guêpe. D'ailleurs, ils manifestent aussi, aujourd'hui, hier, et à juste raison. Comment vivre seul en France avec 682 euros par mois de tous les régimes additionnés? Dans ce système socialiste d'escrocs officiels, tout le monde est volé. Et il est donc normal que les capitaux s'évadent avant ou après leurs détenteurs, avant que l'ogre totalitaire ait tout dévoré. Dans le chapitre 17 de mon Histoire de la monnaie, le titre en est « À la trappe de l'histoire ». Nous revenons au moment où une pièce de l'Union latine est frappée au nominal de 20 francs français et pèse 5,8064 d'or pur dans un alliage avec du cuivre, donnant une pièce robuste de 6,5 au total. Nous disons robuste car une pièce d'or est molle et peut être authentifiée justement en la déformant par exemple avec les dents. Les pièces en circulation ne pouvaient plus se déformer, démontrant qu'il s'agissait donc d'un alliage à poids partiel seulement d'or pur. Lorsque DSK mordit une pièce d'un euro pour démontrer sa bonne valeur aux caméras de télévision sans qu'il puisse la déformer, il ne fit donc que démontrer son ignorance crasse de la chose monétaire. Et il était ministre des Finances. Avant de devenir, pire encore, président du FMI de nos jours. Donc l'Union latine pèse en 1866 le poids d'or de 1797, mais 70 ans plus tard. Malheureusement, le stock d'or pur, ainsi frappé, reste bien trop insuffisant, et cette monnaie commune dont certaines pièces, comme la belge en 1879, portent la devise « L'Union fait la force », partira à l'issue de la crise de 1929 à la trappe de l'histoire. Cela entraînera le rétrécissement de l'impérium monétaire français sur la seule zone franc, comportant la France, ses dom-toms, ses CFA et ses CFP, et la Belgique, avant que même celle-ci ne sombre dans la zone marque. Cette zone marque grandira d'ailleurs de manière inversement proportionnelle et inclura progressivement, outre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, le Liechtenstein, l'Autriche et les futurs pays de l'Est, prenant la place du franc, hérité du Premier Empire. Mais dans les règlements internationaux, la livre sterling poursuit sa progression aux dépens, bien sûr, d'une partie croissante de son pouvoir d'achat. Elle devient la base du système monétaire international, car elle reste réputée aussi bonne que l'or, en tout cas plus proche de cet idéal antique que le franc français ou les autres monnaies du XIXe siècle. Cette crédibilité est donc forcée, avec jeu de mots, mais acceptée, car elle évite de déstocker des caves des autres banques centrales l'or qui y réside encore. En 1899, 33 ans après la création de l'Union latine, la masse des billets de banque en circulation internationale s'élève à l'équivalent de 3 milliards de dollars US, pour l'essentiel encore libellé en livres sterling. Avec la même encaisse métallique qu'en 1797, s'élevant à 1,27 million de livres, ou peu s'en faut, à la parité fixe, qui avait déjà permis l'échafaudage de 13,5 millions en billets 102 ans auparavant, contrepartie à 91% de créances sur l'État principalement. On en est donc arrivé à une expansion en 33 ans de 22 122%. Cette expansion avait été bien sûr recherchée pour permettre que la livre se répande suffisamment pour occuper la place laissée progressivement vacante par la France, dont la livre tournoie disparut d'abord avant que le franc lui-même ne finisse assassiné par Chirac en 1999, soit exactement 100 ans plus tard. En 1899 donc, quelles sont alors les parités or des principales monnaies en circulation? Une livre vaut 7,60 g d'or pur. Je vous passe les décimales. 1 dollar US, 1,50 g. 1 franc français, 0,2903 g, c'est-à-dire le centième d'une uncia gallo-romaine. La livre sterling est donc 5 fois plus forte que le dollar US, lequel est lui-même 5 fois plus fort que le franc, qui retrouve à peu près sa parité de création en 1785, 114 ans auparavant. Dans le même moment, le dollar d'argent circule parallèlement à la pièce d'or de 20 dollars, pesant 30,09 g d'or pur, soit à peu près une once ancienne. Le nominal de 20, outre qu'il hérite de l'histoire de l'Empire monétaire français, chiffre un rapport de 1 à 20 aussi entre l'argent et l'or, campé sur la loi naturelle observée sur Terre, où après 2000 ans de tâtonnement des connaissances en la matière, on sait enfin qu'il se trouve à 0,02 g d'argent pur, quand on n'en trouve que 0,001 g d'or pur dans une tonne de minerai approprié. Donc, un rapport de 1 à 20. Le temps est loin où l'on pouvait ramasser de l'or natif à la pelle dans les rivières, comme le pactole, ou dans les mines. Si depuis le début de l'expansion de la masse de monnaie papier en circulation, la parité était fixée en fonction des possibilités de remboursement des billets en pièces d'or ou d'argent par la banque centrale émettrice, ces facultés devenant trop rapidement minuscules en rapport des billets mis en circulation, il fallut non seulement accentuer le cours forcé, mais même dévaluer la valeur, pourtant déjà théorique, de remboursement de ceux-ci. Cette dévaluation était aussi censée restaurer la confiance dans les billets en recrédibilisant la valeur théorique de ces billets en or ou en argent, en cas de panique et de demande de remboursement massif au guichet. Cette dévaluation dut, comme on le sait depuis, être répétée souvent, tant la pyramide inversée voyait sa base s'agrandir démesurément en proportion de sa pointe, l'encaisse réelle. La première grande guerre mondiale de 14-18 porta un coup fatal au système métallique par l'inflation gigantesque qu'elle provoqua. La masse de monnaie or est redevenue, comme sous Louis XI et Catherine de Médicis, insuffisante pour circuler encore parmi les peuples, et elle se trouve immédiatement, presque totalement supplantée par la monnaie papier, elle, d'expansion concrètement illimitée. La monnaie de bois commença à générer la langue de bois. La monnaie papier était comptabilisée au passif du bilan de la Banque centrale émettrice par l'addition arithmétique des nominaux de tous les billets mis en circulation, dûment identifiés par tous les moyens possibles, dont une numérotation précise. L'actif, équilibré au passif, comportait une partie en caisse métallique et une partie en créance sur l'économie et sur l'État, lequel se faisait financer par la planche à billets. Ces reconnaissances de dettes forcées étaient aussitôt incluses dans les créances de la banque. C'est la dictature de cette comptabilité en partie double qui mit en place le système. La nécessité de permettre à la banque de trouver de bonnes créances, comme l'était artificiellement réputée celle sur l'État, pour émettre en contrepartie autant en billets supplémentaires, freina l'expansion monétaire. L'idée keynésienne de la monnaie repose ipso facto sur la nécessité pour l'État de faire du déficit pour permettre à la Banque centrale nationale ou internationale de mettre plus de monnaie en circulation. Cette idée insensée, diabolique, irresponsable, domine toujours le monde en 2009 et a généré entre-temps l'horreur du communisme qui obligea l'État à tout dominer pour mettre en circulation les liquidités réclamées par l'économie publique. L'économie monétaire devint politique, mais malheureusement aussi terriblement idéologique. C'est ainsi que la crise de 1929 fut générée par un manque crucial de liquidités monétaires, les États freinaient les déficits, l'insuffisance de monnaie en circulation, même dévaluée de papier, provoquait une constriction du PIB des principales puissances d'Occident. Une dévaluation de moins 46% du dollar US à 35 dollars l'once anglo-saxonne mit le dollar à 0,809 d'or pur. Dans la dévaluation générale, la livre gardait une valeur supérieure au dollar et donc un peu de sa splendeur passée, ce à quoi les gouvernants britanniques tiennent plus qu'à la prunelle de leurs yeux. Le franc, lui, commença à débouler une pente décadente terrifiante. Les pièces d'or se firent rares, circulèrent après cela de moins en moins avant de devenir des pièces de collection, des valeurs refuges, achetées et vendues sur le marché de l'or à la Bourse de Paris, supplantées depuis la Seconde Guerre mondiale par le fixing de Londres. Chirac supprima même le marché de l'or au cours de son second mandat, à une date dont je préfère ne pas me souvenir, tellement cette mesure me fit mal. Les valeurs indicatives servant de base aujourd'hui aux transactions sont tirées du calcul mathématique basé sur la valeur de l'once britannique à Londres, et plus du tout celle française de Paris disparue à la trappe, proportionnellement au poids des différentes pièces. La soumission est aujourd'hui totale de la France à la monnaie anglo-saxonne via l'horreur baptisée euro. La présidente du syndicat des numismates à Paris, rue de la Bourse, laquelle est complètement défunte à Paris, me disait un jour qu'elle aussi n'aurait jamais, de sa vie, cru voir toute cette horreur. Toutes les tentatives de faire circuler des pièces à plus ou moins forte teneur en métaux précieux se soldèrent par des échecs, tant la mauvaise monnaie chasse la bonne, aussitôt thésaurisée, du fait de la perte totale de confiance dans les billets d'abord et maintenant dans les banques. Nous verrons dans notre prochain chapitre numéro 18 comment le stock d'or conséquent des banques centrales occidentales fut épuisé dans les années 60.